On the 100th anniversary of the Stanley Cup, it is only fitting that it goes to the Montreal Canadiens for the 24th time.
Vous avez joué un match ce soir impeccable, Stéphane. Est-ce que vous étiez énervé? Est-ce que vous avez craint un peu ce match-là?
On était très nerveux. Il n'y a pas grand joueur qui a dormi hier soir et cet après-midi. On voulait vraiment pas retourner à Los Angeles et puis on a joué un match parfait.
9h40. Ah ouais, la nostalgie dans le fond.
J'étais là. Hein?
25 ans aujourd'hui.
Oui, oui, j'étais dans le forum ce soir-là. Je couvrais le match pour la presse et le bruit, là, parce que évidemment, ça n'a pas été un match serré. Le Canadien a gagné quoi? 4-1, je pense, le dernier. Ouais. Mais en tout cas, avec 10 minutes à faire, là, c'est l'affaire était entendue. Et le bruit dans le forum, tu sais, quand ouais. L'expression les murs qui tremblent, mais ça a été comme ça pendant 10 minutes de temps complètement assourdissant. C'est un moment vraiment fabuleux. Puis je vois encore Jacques de Mers, puis Serge Chavard, puis tous les joueurs. Je pense qu'on vient d'entendre Stéphane Lebeau. Puis
oui,
il y avait tellement de gars dans cette équipe-là qui ont été extraordinaires. Patrick Roy, Guy Carbonneau, Vincent Danfousse et combien d'autres. Mais ça a été vraiment tout le parcours du Canadien en série cette année-là. Pour moi, ça demeure un des événements que j'ai couvert là, qui m'a le plus marqué parce qu'il y avait une énergie vraiment formidable en ville autour de l'équipe. C'était une belle équipe. C'était vraiment une belle équipe.
102 points dans cette année 92-93, ouais. Troisième au classement général de la Ligue nationale.
Et ça avait mal commencé, les séries, hein, avec deux défaites à Québec contre les Nordiques. Et puis là, Patrick Roy avait décidé que c'était assez. Puis je me souviens encore de sa déclaration, on l'a un petit peu oublié. Mais la veille du troisième match au Forum, on était dans le vestiaire. Puis bon, on était quelques journalistes autour de lui. Puis là, ça parlait des Nordiques, puis ça parlait des Nordiques. Puis avec sa kick, puis Sundin, puis tout ça. Puis là, tout à coup, il a dit, c'est vrai qu'ils sont bons, mais il faut arrêter de le dire. Il faut arrêter de dire qu'ils sont extraordinaires, qui sont rapides. Là. Nous autres aussi, on en a des bons joueurs de hockey. Il faudrait qu'on commence à le dire et à le prouver aussi. Puis on dirait que cette déclaration-là a complètement changé l'état d'esprit chez le Canadien. Tout à coup, les joueurs se sont dit « Hey, on est capables, nous autres aussi. » Et ça a fait une grosse différence.
Guy Carbonneau aussi, il est allé d'une déclaration. Il faudra arrêter de les respecter parce que Jacques Demers avait toujours craint d'allumer l'adversaire. Il disait jamais un mauvais mot sur l'adversaire. Entre les quatre murs, c'était autre chose, là. Mais publiquement. Mais à un moment donné, Guy Carbonneau, il faudrait peut-être arrêter de les respecter. Là. Puis écoute, à partir de cette échappée de Matt Sundin en prolongation, parce qu'on est venu à une échappée près de se retrouver 0-3 là, dans cette série-là. Et un but un petit peu chanceux. Là,
du Canadien par la suite. Rondelle qui dévie sur un patin. Puis qui
Gusarov, je pense.
C'est ça, exactement.
Numéro 5, Alexis Gusarov. Ouais. Je me souviens, à l'époque, mes parents était détenteur de billets de saison pour les Nordiques. Je suis originaire de la région de Québec et les gens, je veux dire, on était une délégation de partisans des Nordiques. Quand c'était 2-0 pour les Nordiques dans la série, les quelques partisans du Canadien, écoute, étaient plus capables. Ils nous entendaient, puis gloussaient. On a mis notre nez dans notre caca, ça n'a pas été trop long.
Mais c'est que les deux premiers matchs à Québec, c'est pas seulement que les Nordiques ont gagné, mais une des deux rencontres, je pense que c'est la deuxième. Pour moi, c'est le match le plus formidable que les Nordiques n'ont jamais joué dans la Ligue nationale.
Ils ont failli perdre le premier.
Oui, c'est ça. C'était un balai sur la patinoire. Là. Le sac-kick à Sundin, c'était des passes incroyables. Ouais. C'était du jeu tellement créatif, tellement beau. Puis tu regardes ça, tu dis, coudon, ils perdront plus un match. Ils vont tous les gagner. C'est le dernier qui ont gagné en série cette année. Là. Mais franchement, le Canadien a montré tellement de... Tu sais, je sais que le mot devient un cliché un peu, mais tellement de résilience. Puis ils y ont cru, puis ils ont repris leur confiance. Puis à partir de là, l'affaire...
Les trois vétérans à l'attaque ont vraiment porté cette équipe-là. Je pense de Mahler, Bellows et Danfousse.
Carbonneau. Carbonneau a joué une grosse série aussi. Puis tu sais, le beau qu'on a entendu là, tantôt. Là, tu sais, c'est des joueurs comme ça. Tu regardes...
Paul Di Pietro.
Oui. Puis c'est ça en série.
Éric Desjardins.
Éric Desjardins avec son autour du chapeau contre les Kings. Mais tu sais, tu regardes en série, puis c'est ça que ça prend pour gagner. Le dernier match là, de cette année, Vegas-Washington, c'est 3-2 pour Vegas après deux périodes. Et qui vient marquer le but égalisateur? Devante Smith-Pelly, un ancien du Canadien. Et qui marque le but gagnant pour les Capitals? Lars Eller. Alors, Devante Smith-Pelly, il n'ira pas au temple de la renommée, mais il a connu des séries et une finale fantastique. Puis c'est ça que ça prend en série, c'est que tu as des gars que tu n'attends pas, puis qui vont arriver avec une performance qu'ils pourront peut-être jamais répéter, mais qui, au bon moment, ont laissé leur match. On parle de Paul Di Pietro, là, tu sais. On se souvient encore de son nom. Puis dans le fond, le Paul Di Pietro, sa carrière, ça a été ça, là. Ça a été quoi? Quelques matchs en séries éliminatoires. Alors, c'est ça que ça prend, des joueurs qui réussissent à s'élever. Eller, je suis moins étonné, parce qu'Eller, souvenez-vous, Quand il jouait pour le Canadien en 2014, il a connu de très fortes séries éliminatoires. Il a toujours été très bon en série. Même la saison suivante, il a quand même été un des bons. Puis je trouvais qu'en série, quand tu lui parlais avec le Canadien aussi, c'était un leader. Là. Tu sais, il restait confiant, puis tout ça. Alors, je suis moins étonné de son succès en série. Je pense qu'il y a quelque chose de un petit peu, je vais employer une expression en anglais, mais du money player, l'harcèleur en série.
On peut faire un parallèle entre les deux, entre la conquête du Canadien en 93, tu faisais référence à des joueurs de soutien, mais ça a commencé difficilement aussi pour les Capitals en série. Là, ils ont l'étiquette de choker, qui sont pas capables de gagner en série. Ils perdent 0-2 dans la première série. Ouais. On se dit, ça y est, ça recommence.
Et les deux matchs à domicile, en plus.
Ouais. Contre une très bonne équipe.
Contre une très, très bonne équipe, les Blue Jackets de Columbus. Et là, ils ont gagné les 4 séries. Là, ils ont conclu chacune des séries à l'étranger, en plus, sur la patinoire des rivaux. Mais pour moi, leur plus bel exploit dans ces séries-là, ça demeure la façon dont ils sont revenus contre Tampa Bay. Tampa Bay menait la série 3-2. Ils vont gagner Washington les deux matchs suivants par jeu blanc, en plus. Tampa Bay avec toute une offensive, certainement un des meilleurs clubs de la Ligue nationale, incapable de marquer contre les Capitals dans ces deux rencontres-là. Ovechkin a donné le ton, spécialement dans le match numéro 7, en marquant dès le début de la rencontre un boulet de canon comme lui seul peut en réussir un. Et il mérite pleinement son titre là, de joueur par excellence des séries. Mais encore une fois, cette façon dont ils ont conclu la série contre Tampa Bay annonçait, à mon avis, une victoire.
Chacune des 4 séries a amené quelque chose à Washington, Columbus et cette barrière des Pingouins de Pittsburgh, ça aussi, ça a été un mur.
La prolongation du 7e match. Oui. Et tu sais, tu prends un gars comme Ovechkin, pour lui, c'est tellement important. C'est un grand joueur dans l'histoire de la Ligue nationale, très certainement dans le hockey contemporain, Alex Ovechkin. Mais tous ces gars-là qui connaissent de grandes carrières, s'ils n'épinglent pas une Coupe Stanley à leur palmarès tout à coup, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Puis il y en a beaucoup de grands joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley, puis ils veulent tellement en gagner une. Alors, Ovechkin, tu vois tout le soulagement. Je m'en le voyais sur le banc des joueurs. Tu sais, il était fébrile. Là. Il n'osait même pas regarder le jeu parce qu'il sait, lui, qu'une occasion aussi extraordinaire comme celle-là, il n'y en aura probablement pas d'autre.
On parlera du Canadien 2018-2019, un autre moment donné.
On aura le temps.
Hey, juste avant de vous laisser, puis je vous pose la question. Combien de joueurs, puis c'est François Arnois qui m'a sorti ces statistiques-là, combien de joueurs de l'édition 92-93 du Canadien sont des Québécois qui ont porté l'uniforme dans cette saison-là?
De mémoire, c'est 12 ou 13, je pense.
Je pense que c'est 14.
15.
C'est 15.
Parce que je compte Donald Brashear, mais il est pas originaire du Québec, mais c'est un gars qui a vécu toute sa vie au Québec. Là. 15 joueurs qui sont originaires du Québec qui ont porté l'uniforme du Canadien cette année-là. Est-ce qu'on peut faire un lien?
C'est sûr qu'il sentait la pression l'été quand il ne réussissait pas.
9h47.